Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Depuis l'introduction de la notion de gène et des lois de l'hérédité en 1865, en passant par la découverte de la structure de l'ADN par Rosalind Franklin, Watson et Crick en 1953, jusqu'aux prouesses de la génomique actuelle, la recherche médicale sur la génétique n'a jamais pu se départir des fantasmes qu'elle véhicule auprès du grand public. De Bienvenue à Gattaca à Equilibrium pour le cinéma, de Orwell à Huxley pour la littérature, les dystopies projetant l'humain dans une société eugénisante n'ont jamais cessé d'alimenter nos imaginaires. Le mouvement anti-vax qui a su faire exister auprès d'arguments entendables la menace d'une manipulation génétique mondiale en est un exemple récent. Paradoxalement, depuis quelques années fleurissent sur la toile l'offre de compagnies américaines le plus souvent, comme MyHeritage ou 23andMe, qui propose de vous fournir la composition détaillée de vos origines ethniques à partir d'une analyse ADN ou de divulgâcher votre propre fin en prédisant les maladies cachés dans les replis de vos gènes. Ah bon, on peut faire ça? Oui, oui. Et aujourd'hui, on ne vous expliquera pas à quel point cette utilisation récréative de l'ADN est éloignée de la médecine, à quel point vos données risquent d'être revendues ou piratées. Par contre, nous allons vous expliquer aujourd'hui comment les scientifiques peuvent trouver les marqueurs de notre ADN, capables de prédire des maladies ou de retracer des origines. Mieux, nos invités du jour vont vous expliquer comment ils sont parvenus à développer, sur de l'ADN végétal, une méthode mêlant mathématiques, génétique et calcul haute performance, celle-ci permettant non plus seulement de trouver des marqueurs, mais de créer des cartes rassemblant plusieurs dizaines de milliards d'interactions entre variants génétiques, et ça c'est une première mondiale. On vous explique tout ça avec Gabriel Crook, chercheur à l'Institut des sciences des plantes de Montpellier, et André Mas, chercheur à l'Institut montpelliérain Alexander Grothendieck. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation.
À mes côtés pour mener cette interview, l'invariante Aline Perriot.
Bonjour.
Elle était facile celle-là.
Elle était facile, c'est vrai.
Notre invitée des trois dernières minutes sera Caroline Ducourau, responsable de la direction patrimoine et culture scientifique. Elle nous présentera la dernière exposition visible au Jardin des Plantes. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Donc nous allons parler de votre méthode pour cartographier les interactions entre variants génétiques. Beaucoup d'entre nous ont entendu le mot variant pour la première fois pendant le Covid. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un variant génétique? Alors, Gabriel Crook.
Oui, c'est assez simple en fait. Depuis quelques années, maintenant bien une quinzaine d'années, voire 20 ans maintenant, on est capable de séquencer entièrement nos génomes. Donc le génome d'un être humain, par exemple, c'est 3 milliards de lettres. Et donc c'est 3 milliards de lettres qui nous définissent, qui sont une espèce de chef d'orchestre de ce qui nous définit, nous, en tant qu'être humain, mais aussi, ça peut être le cas pour une plante, une bactérie, un champignon, enfin tous les êtres vivants. Leur information est écrite dans ce grand livre. Et depuis une vingtaine d'années, on est capable de le lire, et aujourd'hui, on est capable de lire votre ADN moyennant une centaine, voire 200 euros. Mais dans la population, quand on se regarde les uns les autres, on voit qu'il y a des différences, d'accord? André et moi, on peut nous comparer, c'est assez simple de voir quelques différences. Et ces différences-là, on peut les attribuer essentiellement à ce qui est changeant dans notre ADN. Donc comme on appartient à la même espèce, donc l'espèce humaine, sur la plupart des lettres, on est équivalent, on a les mêmes lettres. Par contre, il y a des endroits où c'est variant, et c'est ces variants-là qui, on espère, et qu'on essaye de corréler avec les différences qu'on observe dans la nature, quoi. Donc c'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour plein de choses. Donc la variation dans le génome, c'est des lettres qui changent d'un individu à l'autre.
Alors vous parlez aussi de polymorphisme, qu'est-ce que c'est ?
Ben c'est ça, c'est l'ensemble des variants que vous pouvez trouver. Donc à un endroit donné dans le génome, vous pouvez voir ça comme une petite balise dans le génome, cet endroit, il est variant et il est polymorphe, c'est-à-dire qu'il a différentes formes. littéralement. Donc il y aura une forme différente pour André. Peut-être qu'à cet endroit-là, il aura un A, et moi, à cet endroit-là, j'aurai un G. Et c'est cette différence-là qui peut éventuellement expliquer les différences que vous observez là, ou des prédispositions aux maladies, ou... si on était des plantes, des changements dans notre comportement à la sécheresse ou nos rendements, quoi, par exemple.
Alors justement, l'idée dans vos travaux, c'est d'analyser le lien entre ces variants génétiques et vous parlez de très spécifique chez les plantes ou d'éventuelles maladies. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de maladies qu'on peut étudier par ce biais-là ?
Bah c'est quasiment sans fin, hein. C'est-à-dire y a énormément de... Bon, il y a des maladies pour lesquelles on a des prédispositions génétiques plus fortes que d'autres. Donc on est capable de mesurer la part de la génétique dans la présence du maladie, parce qu'évidemment il y a certaines maladies qui sont aussi issues de notre interaction avec l'environnement. Par exemple, inutile de dire que si vous fumez, vous avez plus de chances d'avoir un cancer du poumon, ça c'est quasiment évident, mais il y a des prédispositions génétiques aussi pour certaines maladies. Donc pour vous faire un exemple, il y a des traits génétiques qui sont extrêmement... marquant, par exemple, la calvitie, c'est pas exactement une maladie, mais on sait que génétiquement, c'est très marqué. Les maladies, il y a certains cancers qui ont une prédisposition génétique aussi assez importante. Et puis, moi, je travaille spécifiquement sur les plantes. Il y a des traits chez les plantes qui sont extrêmement liés au caractère génétique. Donc, les rendements, la réponse à la sécheresse, etc. Ce genre de choses-là.
C'est marrant, la calvitie, c'est l'exemple qui nous est venu aussi en parlant des traits ce matin.
Oui, aussi.
Alors à quoi ça sert fondamentalement de les chercher en fait, ces liens ? Est-ce qu'on est dans la prévention de la maladie par exemple, ou est-ce qu'on est dans de la recherche fondamentale pour mieux connaître une maladie ? Quel est l'objectif ?
Ben, tous ces enjeux sont là, c'est-à-dire effectivement mieux comprendre quelles sont les l'architecture génétique d'une maladie ou d'un trait de caractère chez les plantes. Mais il y a aussi, une fois que vous avez un variant, vous pouvez détecter en amont, comme ce que proposent de faire ces compagnies que vous avez citées en introduction. Elles nous proposent d'essayer de voir si on a des prédispositions génétiques à telle ou telle maladie, ce qui permet d'anticiper, éventuellement de traiter en amont. Et à terme, si le variant il se retrouve dans un gène dont on connaît la fonction, plus tard, il y a potentiellement possibilité d'imaginer des thérapies géniques. Ou chez les plantes, je m'excuse, hein, je reviens toujours à mon fonds de commerce, chez les plantes, être capable de sélectionner des plantes qui ont des caractères importants pour la réponse à la sécheresse, au changement climatique, etc. Donc ça touche tellement à un mécanisme fondamental de la biologie que ça touche énormément d'aspects du vivant, et donc en fait ça ouvre un terrain de jeu assez incroyable, quoi.
Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, alors vous avez parlé d'un trait, on va reprendre celui de la calvitie par exemple, se dire on va prendre un million d'hommes qui ont une calvitie et on va regarder si la calvitie peut être liée à une maladie par exemple. Est-ce qu'on peut faire des liens comme ça
Ah oui, ça se fait, oui. Il y a des gens qui lient les traits entre eux, c'est-à-dire est-ce que tel trait a la capacité de prédire la présence d'un autre trait, etc. Oui, ça se fait aussi. Mais là, dans ces cas-là, vous reculez de l'aspect génétique, vous regardez juste si ces traits entre eux ont une corrélation. D'ailleurs, la base de la génétique, elle s'est définie comme ça au début. Les lois de Mendel, elles ont été faites comme ça, on regardait le lien dans la population, comment ségréger les caractères, donc c'était dans les petits pois, la génétique a été inventée chez les plantes, hein, pour tous nos collègues animalistes qui pourraient écouter. c'est une bataille de chapelle, ça c'est rien. Donc les traits génétiques, on a observé comment ils se déployaient dans la descendance d'une plante, et certains étaient liés les uns aux autres en fait.
Alors jusqu'à présent, ce lien entre ces variants génétiques et les traits spécifiques, on l'étudie avec une méthode de recherche qui s'appelle GWAS, pour Genome Wide Association Study. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Peut-être André, vas-y.
Oui, alors le GWAS, c'est une méthode qui permet de relier l'information génétique dont parlait Gabriel à l'instant, avec cet alphabet sur tous ces variants, à un trait observable, en l'occurrence la calvitie, qu'on codera chauve ou pas chauve. Donc on a une information génétique en entrée, on a un trait observable en sortie, et le GWAS va faire le lien entre les deux par l'intermédiaire d'outils mathématiques qui sont des tests statistiques généralement, et qui permettent de dire si oui ou non on observe une liaison ou pas.
Alors, cette méthode, elle a une limite, c'est que la recherche de variants, elle se fait donc un par un. Alors que les scientifiques soupçonnent depuis un moment que ce qui serait intéressant, c'est justement la combinaison des variants. Donc, ce que vous appelez l'épistasie, ça signifie qu'un trait ne dépend pas d'un gène, mais de plusieurs, c'est ça, si on voulait le simplifier, André Mas ou Gabriel Crook.
Oui, donc c'est un peu ça. Donc, l'idée, c'est que pour le GWAS, il permet de corréler les variants et d'essayer de trouver s'il y a une corrélation avec le trait. Oui. Mais jusqu'à présent, ça se faisait un par un, parce que des variants, il y en a énormément. Oui, par exemple, dans la population humaine, il y en a 1 million de variants, à peu près, entre 1 et 5 millions de variants qui nous différencient tous. Dans ces cas-là, pour revenir aux chauves, on prend des chauves et des pas chauves et on regarde ceux qui ont les variants qui pourraient les discriminer, en fait, en disant à tel endroit, tous les chauves, ils ont ce variant et à tel endroit, tous les chauves, ils l'ont pas. Sauf que quand ça se fait un par un comme ça, déjà, ça prend du temps. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il faudrait les combiner au moins deux par deux. Et c'est ça qu'on a fait. Mais le problème de ça, c'est qu'on se heurte à une taille de calcul qui est démoniaque.
Complètement exponentielle.
Exactement.
Là, et on y arrive d'ailleurs.
Alors oui, et d'abord, vous dites aussi que, par exemple, dans votre publication, que la ressemblance entre les jumeaux, elle montre que ce modèle du GWAS, que vous appelez monodimensionnel, il est limité. Pourquoi la question des jumeaux ?
Donc oui, quand on observe deux jumeaux homozygotes, monozygotes, on voit clairement que c'est des copies parfaites. Hein. Et que quand on prend la totalité des variants génétiques et qu'on essaie d'expliquer la variation du trait, en fait, on n'arrive pas à le faire, à expliquer 100% de la variation. C'est ça qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire on explique 30%, au mieux 40-50% de la variation.
Vous parlez d'héritabilité manquante notamment, c'est justement
exactement
ce pourcentage-là ?
C'est-à-dire que c'est le pourcentage de variance qui manque pour expliquer la totalité du trait. Et ça, c'est parce que une des hypothèses, il y a d'autres hypothèses, hein, mais une des hypothèses, c'est de dire que finalement, il ne faut pas regarder les variants un par un, mais c'est peut-être leur combinaison, leur combinatoire qui va expliquer le reste du trait. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Et effectivement, une partie de l'héritabilité manquante se cache dans ces interactions.
Alors justement, pour étudier ça, vous avez développé une méthode qui permet de fournir des cartes de plus de 60 milliards d'interactions entre variants pour comprendre un trait donné. Alors c'est une première mondiale, hein, on l'a dit, pour laquelle vous avez eu recours, André Mas, à une astuce mathématique. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
Oui. Alors, comme vient de le dire Gabriel à l'instant, le problème, c'est que si on a 300 000 variants génétiques, si on veut les regarder deux à deux, eh bien, il faut faire 300 000 fois 300 000 à peu près, en fait. 300 000 fois 300 000 divisé par 2. Et c'est là qu'on arrive à des milliards de chiffres à calculer. Et en fait, pour faire ça, on utilise un procédé qu'on connaît déjà, que tout le monde connaît, au travers des images JPEG. Quand votre appareil photo prend une image, il prend une image avec un niveau de résolution très élevé, qui est quelque chose qui est très lourd potentiellement. Et ce que fait le JPEG, il fait de la compression d'informations avec un minimum de pertes. D'accord ? Et cette compression, on la voit à travers des pixels. Nous, on a fait pareil. On a trouvé un algorithme qui permet de comprimer l'information génétique tout en gardant ce qui est important pour nous, pour l'étude du trait qu'on observe. Donc on comprime, et ainsi en comprimant, on peut calculer beaucoup plus rapidement. Et cette astuce, elle est là, c'est une astuce qu'on a adaptée des problématiques de type imagerie.
Alors, vous avez également utilisé des calculateurs graphiques qui sont les mêmes que ceux utilisés pour les jeux vidéo ou pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Alors, à quoi ça a servi ? André Mas, toujours ? Oui.
Oui, alors, en fait, ces calculateurs, ils sont très spécifiques. C'est-à-dire que ce sont des calculateurs qui sont un peu bêtes. Ils font des calculs simples, mais ils les font très vite et on peut en avoir beaucoup. Donc, si on leur demande des choses pas trop compliquées, ils vont les faire rapidement. Alors qu'on a des calculateurs qui sont plus complexes, mais qui sont plus gros, mais qui vont faire les choses plus lentement. Donc nous, on a basé nos résultats sur effectivement un gros travail d'informatique permettant d'accélérer fortement les calculs mathématiques déjà simplifiés à la première étape dont j'ai parlé tout à l'heure.
Là, je pense que c'est là qu'il faut qu'on cite d'ailleurs notre troisième larron, qui s'appelle Clément Carré, qui a commencé son travail dans l'académique avec nous et qui est maintenant le président d'une start-up qu'on a cofondée tous les trois. Et c'est lui qui est un peu l'architecte de la mise en place de cette algorithmie et aussi des principes un peu de maths, de l'idée d'appliquer ça à des questions génétiques. Donc oui, il fallait quand même éventuellement le citer sur cet aspect-là. Et donc Clément Carré, un mec génial.
Et la start-up, elle s'appelle comment ?
La start-up s'appelle Bionomics.
Donc vous êtes un trio, vous avez l'habitude de travailler ensemble, mathématicien, biologiste, informaticien, c'est ça ?
Exactement.
Alors justement, je reviens sur la vitesse de calcul dont vous parliez tout à l'heure. Pour se faire une idée de la comparaison, combien de temps on gagne quand on fait le calcul avec les méthodes GWAS traditionnelles et avec votre nouvelle méthode ?
Alors, nous, en gros, donc ça dépend un peu des données qu'on met en entrée, mais on est passé de quelques dizaines d'années à quelques dizaines d'heures.
Ah oui.
Voilà, c'est de cet ordre-là.
Ça va vite. D'où l'expression plafond de verre brisé. Alors, vous en faites une cartographie. Alors, elle ressemble à quoi, cette cartographie, pour le profane ? Et surtout, une fois qu'on a ces 60 milliards de combinaisons, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la traite ? Parce que c'est, j'imagine qu'en termes de données, c'est énorme, Gabriel Crook.
Ah oui, c'est colossal. Moi, quand je fais des présentations dans les congrès, j'essaie de donner une idée, parce que le cerveau humain, il n'est pas fait pour gérer ce genre de taille de données. Donc, nous, on est parti de 450 000 variants et on a fait la matrice au carré, c'est-à-dire on a fait 60 milliards d'interactions. Donc, pour répondre à votre question, notre carte, elle ressemble à un grand triangle coloré. Je pourrais vous donner une photo, on pourra le mettre sur le site internet si ça vous intéresse. Pour donner une idée de la taille de la problématique, je demande aux gens de me dire, et je vais vous poser la question, vous m'excusez de retourner un petit peu l'exercice. C'est assez simple. 450 000 secondes, vous avez une idée de combien de temps ça fait
3600, c'est une heure, c'est ça ?
Oh, c'est beaucoup.
Donc, je vais vous spoiler le truc assez vite, mais en gros, 450 000 secondes, ça représente 4 jours.
Ah oui,
d'accord. Quand on passe ça au carré, nous, on étudie maintenant plus de 60 milliards d'interactions, c'est-à-dire 80 milliards d'interactions. Et donc, ça vous donne 80 milliards ou 60 milliards de secondes, ça vous donne vous avez une idée de combien de temps ça dure, ça ?
Non, pas du tout.
Ça fait 2000 ans.
Ok,
donc, on ne les verra pas passer.
Exactement. Donc, entre 4 jours et 2000 ans, ça vous donne une idée de l'exponentialité, je ne sais pas si on peut dire ça, de la façon d'étudier la chose. Voilà, donc, et du problème qu'on a résolu.
Après, donc, les résultats sont représentés sous la forme d'une image. On a une image avec 80 milliards de pixels. Et ces pixels, ils s'allument en fonction de la présence d'une interaction.
C'est le fameux triangle dont Gabriel parlait tout à l'heure.
C'est comme regarder les galaxies. Et nous, on a le télescope qui permet de faire ça et d'aller récupérer les interactions épistatiques.
C'est à moi ? Je suis perdue.
Non, mais je vais enchaîner.
C'est les 60 milliards qui m'ont perdue.
Gabriel, donc on l'a dit, vous êtes biologiste végétal, donc vous avez travaillé sur Arabidopsis thaliana pour obtenir ces 60 milliards d'interactions. Et qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur cette plante ? Il y a des choses que vous ne connaissiez pas et que vous avez découvert avec cette méthode ?
Pour l'instant, on a mis le doigt sur un certain nombre d'interactions épistatiques, donc de couples de gènes qui pourraient être en interaction. Et en ce moment, on est en train de valider expérimentalement la possibilité que ces gènes, effectivement, interagissent dans le contrôle. Par exemple, on a des choses sur la teneur en nutriments de la plante, de savoir est-ce que deux gènes sont en interaction pour modifier sa teneur en nutriments, par exemple. Donc oui, on est en train de le faire. Après, expérimentalement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, dans les labos, on travaille en ce moment sur ces cartes, ces fameuses cartes d'interaction. On pointe des endroits où c'est intéressant. Et on essaie de trouver des choses effectivement sur les plantes.
Et est-ce que la même expérience sur l'humain donnerait plus de combinaisons ?
Alors, on en est là, oui, on est en...
André qui hoche la tête.
Ouais. Donc, on travaille en collaboration avec une université canadienne, l'hôpital Sainte-Justine, où on applique ça maintenant sur des données humaines. En particulier des données, c'est un laboratoire spécialisé dans le trouble autistique. Et donc on essaie de trouver des variants liés à l'autisme parce que l'autisme en soi, il est connu pour être une maladie qui a des composantes génétiques multiples. Et donc il se peut très bien que notre algo aide un peu à ça. Donc on est en collaboration avec eux pour ça.
Et dans le domaine de l'agronomie, justement, est-ce que ça pourrait intéresser, par exemple, des semenciers sur la sélection des plantes avec des traits spécifiques qui souhaiteraient cultiver davantage que d'autres ?
Exactement, oui. Parce qu'une fois que vous avez trouvé ces variants, vous pouvez les utiliser dans des schémas de sélection en disant ces plantes qui ont ce variant, Et donc, dans notre cas, ça ne sera pas ce variant, mais ça sera les combinaisons de variants. Finalement, je vais vérifier que c'est le plantelon et je vais les amener à la suite dans mon schéma de sélection. Et donc, éventuellement, vous pouvez pousser le phénotype, le trait qui vous intéresse, par exemple le rendement, la résistance à la sécheresse ou autre.
Et toujours avec la même idée de ce triangle-là dont on a parlé tout à l'heure, quelle que soit l'espèce qu'on va utiliser, est-ce que ça va changer juste la taille en fonction du génome, c'est ça?
Ça va changer, mais si on essaie même de pousser le bouchon plus loin, et c'est ça qu'on voudrait, c'est regarder, passer de 2 à 3, interaction entre 3 gènes, eh bien on n'aura pas un triangle, on aura une portion d'un cube. Et là encore, il y aura des nouveaux enjeux, des nouveaux défis pour calculer et représenter tout ça.
Et alors, on en a parlé un petit peu dans le lancement de Lucie, les fameux tests commerciaux pour connaître un peu mieux ces prédispositions aux maladies. Est-ce que ces travaux-là, ils permettraient de les rendre plus précis ou de les améliorer, Gabriel?
Ah oui, tout à fait, oui. C'est un peu comme ce que je vous décrivais pour les plantes au début, c'est que ces tests pour les maladies, ils vous disent si vous avez tel variant, vous avez une probabilité de 20% supplémentaire de faire un cancer du sein à 40 ans. Nous, dans notre cas, on pourrait éventuellement mettre le doigt sur des combinaisons de variants, c'est-à-dire si vous avez tel variant combiné à tel variant, dans ces cas-là, vous pouvez prédire un peu mieux. Effectivement, c'est ce qu'on montre dans l'article, c'est qu'on a nos capacités de prédiction qui sont quasiment doublées. En rajoutant ces informations qu'on dit épistatiques d'interaction.
Alors, est-ce qu'on a sorti tout ça d'un petit avertissement aux gens qui sont tentés d'aller faire ces tests sur Internet? C'est fiable? On y va, on n'y va pas?
Là, c'est un peu polémique, mais disons que c'est fiable, mais sauf que les gens l'interprètent très mal.
C'est ça.
C'est-à-dire que y a les variants qui ont été associés, par exemple, à des maladies. Moi, je ne suis pas généticien humain, donc... Prenez ce que je vous dis avec des pincettes, mais c'est ma vision personnelle. C'est que des fois, on peut vous dire, vous avez tel variant, votre probabilité de faire un cancer de l'estomac, il est augmenté de 5%, ce qui est finalement assez peu vis-à-vis de la prévalence de la maladie. Mais des gens qui vont lire ça, ils vont le prendre pour argent comptant. S'ils n'ont pas des notions statistiques de base, ils vont tout de suite paniquer. Donc effectivement, c'est l'interprétation des résultats qui est dangereuse. Après, le lien statistique entre le variant que vous fournit la société et la maladie, il a été validé par les pairs, il est connu, etc. Donc scientifiquement, ça existe. Il faut prendre avec des pincettes l'interprétation de ces résultats, oui, effectivement.
Très bien. Eh bien, un grand merci à tous les deux, André Mas et Gabriel Crook, et revenez quand vous voulez dans Allume la Science.
Merci.
Merci beaucoup.
Et j'accueille maintenant Caroline Ducourau, directrice de la culture scientifique et du patrimoine historique. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous nous présentez aujourd'hui l'exposition Chongqing sur les quatre rives du temps qui passe. Vous me reprendrez sur la prononciation si je me suis trompée. Le photographe, c'est Cyrus Cornu et l'exposition est visible à l'Orangerie du Jardin des Plantes depuis le 4 mai jusqu'au 26 mai. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du thème? Moi, j'ai été la voir, l'exposition, donc il y a une dizaine de photos, c'est ça?
Voilà, il y a toute une série de photographies urbaines relatives à la ville de Chongqing, qui est une métropole chinoise de 34 millions d'habitants. Et en fait, l'artiste Cyrus Cornu, qui est architecte de formation, s'intéresse à la thématique des villes et de leur environnement, notamment en lien avec la végétation qui reprend, qui est vivace malgré tout dans un environnement très urbain. Donc, cette série sur... la métropole de Chongqing fait à la fois la part de l'urbanisme exponentiel de cette ville, mais aussi de l'humain au centre de cet environnement urbain. Et on peut voir des contrastes au niveau des échelles entre des passants et des immeubles d'immense taille, des grandes séries d'immeubles. Donc tout ce travail sur l'architecture et l'urbanisme nous montre sa perception de l'humain dans son environnement parfois un petit peu rude. Mais
oui, il y a quelque chose de très poétique aussi. C'est très urbain, mais on voit effectivement des bâtiments noyés dans la brume. Il y a quelque chose de vraiment très beau dans ces photos.
Le photographe travaille à la chambre. Ça donne un rendu très beau, avec un grain spécial par rapport à ses photographies. La ville est embrumée, effectivement. Donc, c'est entre un climat humide et des ravages de la pollution également. Mais ça donne à ces photographies une poétique particulière. Et par ailleurs, il y a un gros travail sur les couleurs qui ressortent de manière très forte, les roses et les verts, qui donnent aussi une touche de poésie à ces photos qui peuvent être par ailleurs un peu brutalistes.
Cyrus Cornu, il est de quelle nationalité ? On dit Cyrus ou Cyrus d'ailleurs ?
Cyrus Cornu, il est français et il a exposé aux rencontres photographiques d'Arles en 2006 et il s'est intéressé à ces villes chinoises depuis 2011 en fait. Donc c'est un travail au long cours et là il s'est concentré sur cette mégalopole de 34 millions d'habitants, Chongqing.
Alors cette exposition, elle s'inscrit dans le programme plus large des boutographies, c'est ça ?
Tout à fait. On est là dans une exposition qui fait partie de la section parallèle des boutographies. Et l'Université de Montpellier est partenaire pour la troisième édition depuis donc 2022 et accueille des expositions dans l'orangerie du Jardin des Plantes.
Alors, donc petit rappel, donc c'est effectivement dans l'orangerie du Jardin des Plantes, dans la partie haute du jardin, c'est du 4 au 26 mai. En accès libre, il y a des horaires particuliers à respecter, celle du Jardin des Plantes ou l'orangerie, c'est un peu différent ?
Alors, tout à fait, donc c'est ouvert du mardi au dimanche, de midi à 18h, et il est à noter des fermetures exceptionnelles certains jours, les 15, 23 et 24 mai, pour des raisons internes au jardin.
Très bien, je vous remercie beaucoup Caroline Ducourau.
Merci à vous.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet et Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.